Une émission proposée par Jacques Mou et présentée par José Galdo. À la réalisation technique, Victoire. Au sommaire, Théo Le Swalch, Jean-Louis Houchard, Gemma Quiroga, Lucien Huneau-Bader et Claude Maillard. Nous allons commencer avec Théo Le Swalch. Théo Le Swalch est de sang celte, poète, écrivain, sculpteur et homme de théâtre. Être et œuvre sont pris dans une problématique de l'espace, du corps et du signe. C'est en 1953 que commence la quête de l'errance. C'est ce qu'il appelle la poésie du voyage. Il passe une année en Scandinavie où il rencontre Marceau et travaille le mime. En 1955, c'est le départ vers l'Orient. Je rappelle cette citation en exergue de l'un de ses livres, « Toute notre civilisation occidentale aurait besoin d'une réorientation », Occident et Orient étant les deux termes polaires. En 1955, s'ouvre une phase de 5 années de voyage avec le Maroc, la Grèce, la Turquie, l'Iran, l'Inde, Ceylan, Thaïlande, Hong Kong et le Japon. Lors de ces étapes, il monte des pièces de théâtre et des spectacles de mime. Il réside au Japon de 1960 à 1965. Et c'est la révélation du théâtre No, où il découvre un espace, une magie inconnue en Occident. Il mène des expériences théâtrales avec des acteurs japonais du théâtre moderne et des acteurs du No. Il monte des spectacles à Tokyo, Osaka et Kyoto. C'est à Kyoto où il vit dans une maison de thé qu'il rencontre, entre autres, le docteur Tanaka, qui l'initiera au rituel du Shinto dans les villages du Japon. Il rentre en France en 1965 et publie « Histoire de la peinture japonaise » aux éditions Rencontre. En 68, « L'érotique du Japon » chez Jean-Jacques Pauvert, livre qui rencontrera des difficultés avec la censure de l'époque. Il publie ensuite une série de récits à partir des expériences de ses voyages, « La Vivite, Phosphène, Maraya » aux éditions Lettres Nouvelles. Et Oui, Poisson-Lune chez Christian Bourgois. En 1972, il descend dans le Gard, réédition de l'érotique du Japon chez Henri Verrier. En 76, il s'installe au Mât Brûlé, ruine qu'il redresse depuis dans le ciel des Cévennes. En 1978, publication des Rizières du théâtre japonais chez De Noël. En 1982, Anata Dare, un retour au Japon 10 ans après. La même année, le poète Guy Benoît consacre à Théo Le Swalch un numéro de la revue Meilleure Saison et publie un recueil de poèmes, Premier geste d'avant l'aube. Après ces quelques rappels biobibliographiques, nous allons écouter maintenant Théo Le Swalch nous lire un texte qui porte pour titre Terre et chair, l'espace du Japon.
Bambou, miaulement, l'éclat d'une lame, une voix siffle dans la transparence d'une cloison de papier. Ma première image japonaise a été le film Rashomon de Kurosawa, un coup de foudre. Kyomachiko, femme au visage de craie, déchire l'ombre en voix rauque de la mort, voix animale sous le signe du théâtre, tout le sens tragique du Japon. Tandis que le théâtre occidental, englué de sa comédie bourgeoise, s'enveloppait de ses décors de carton, Artaud dénonçait l'envoûtement. Hurlait, crachait, tentait désespérément de ressusciter le vieux culte solaire. Signe. Japon, espace du signe. Débarqué au Japon sous son signe du soleil rouge, après plusieurs années de plongée à travers l'autre Asie, Asie grouillante, Asie des mosquées, turbulence des dieux, des curry, or du Siam et Mahjong de Hong Kong, un Japon soudain labyrinthe d'une métropolis décorum, travestie et en permanent travestissement. Reconstitution européenne aspirée déjà dans le futur. toute odeur absente et saveur réduite au minimum. Poser le pied sur le béton japonais, dans une fadeur sans relief, au milieu de visages neutres dépourvus de regard. Il me fallait laisser agir le temps. Nécessairement, ce vouloir vide, ramener l'essence au néant de la naissance, en quelque sorte, disparaître, entrer dans l'oubli, et jour après jour, sous le masque bruyant des rues de Tokyo, des haut-parleurs et des musiquettes de pubs sirotées, se perdre. L'image taoïste du miroir vide d'image, un disque de bronze poli, glacé, le miroir solaire de la vision destiné à se laisser saisir. Il faut du temps pour voir. Le miroir est vision du regard nocturne, une sorte de soleil noir qui réinventerait dans un passé présent tout l'espace animiste, lieu éclaté des myriades de divinités shintoïstes, lieu de la contagion. Sans me rendre compte, le théâtre japonais m'apprendrait à lire l'âme intime du Japon depuis les rizières minuscules dispersées dans les montagnes jusqu'au jeu réduit à rien, à une ponctuation, à l'essentiel du signe, du geste no. Espace dans l'architecture sonore qui vibre la danse de l'acteur masqué sur son carré de scène ralenti. Espace physique qui se prolonge jusqu'au jeu d'un danseur buto. Le geste du no comme celui du buto exprime la violence d'un combat entre centre et cercle, tel le mandala d'où jaillit la verticale. À l'est, je vous rencontrerai dans la terre pure de Kanon. Au sud, je vous rencontrerai dans la terre pure de Yakushi. À l'ouest, je vous rencontrerai dans la terre pure de Mida. Au nord, je vous rencontrerai dans la terre pure de Shaka. Au centre, je vous rencontrerai dans la terre pure du grand soleil. Chant d'un rituel Shinto. Dans ce geste, il y a le mythe des forces obscures les plus primitives de la descente aux enfers, ainsi que l'immédiate en convulsion du présent zen. L'Européen confronté à cet autre univers qu'est l'Empire japonais serait privé de ses repères. Je me retrouvais quant à moi enfin celte et restitué au mythe. Aucun repère. Mishima, quand je l'avais rencontré en 61, m'avait affirmé que la langue japonaise était faite pour couper court à la communication, cette religion falsifiée de l'informatique. Quelques années plus tard, un des maîtres du Buto, Maro Akagi, me disait « Je veux réveiller les démons qui sont dans mon ventre, Tsuchi et Niku, la terre et la chair. » Un jardin de pierres sèches à Kyoto est un geste qui en appelle à la relation spatiale du cosmos avec son spectateur. Quel rôle aurait alors la parole humaine quand on sait que c'est dans l'instantanéité de sa danse qu'une brosse d'encre noire, lâchée sur l'espace du papier blanc, exprime tout ce que le mot, lui, est incapable d'exprimer. Le mystère du vieux Japon est dans l'instant, dans l'impermanence des choses. L'exotisme de mon premier choc avec Rashomon prenait lentement sa consistance. Je commençais à sentir derrière la possession jouée par Kyo Machiko l'esprit chamanique de ces femmes aveugles, les Miko du nord du Japon, que j'allais écouter quelques années plus tard à Osore-zan, la montagne de la peur, un lieu dantesque, volcan de pierres chahutées, parcouru ici et là de bouillonnements jaunes, jaillissant de vapeur. Ces Miko, accroupies chacune sur son bout de tapis, entraient par le chant, l'incantation et le jeu magique des doigts dans la transe, et d'entre leurs lèvres faisaient sortir les voix des défunts qu'elles invoquaient. C'était la fête du retour des morts. Chaque village du Japon, aujourd'hui encore, renoue avec les divinités de la terre par des cérémonies rituelles faite de chants, de danses et aussi d'ivresse provoquée par le saké. Cela depuis les temps les plus anciens avant l'introduction du bouddhisme. J'errai plusieurs années d'un village à l'autre sous le signe de ce culte à la fertilité, culte de la vie, culte du phallus. L'alcool de riz et la musique répétitive jouaient la nuit durant jusqu'à l'aube, écartelant à l'infini le périmètre sacré du drame. Il s'agit d'arriver à l'inconnu par le dérèglement de tous les sens. L'homme japonais n'est pas un mystique. Il est calme, soumis, sentimental. L'approche de ses citadins est toujours masquée. Sans l'alcool, il demeure sur sa réserve. Aucune exubérance, inertie relationnelle et aussi frustration. Tout se replie, se noue au secret de l'individu qui semble n'aspirer qu'à se fondre dans une foule impersonnelle. Mais l'énergie qui couve derrière la soumission est prête à jaillir, tragique. Certains souffraient de cette obéissance consentie à l'ombre des mièvres cerisiers en fleurs et des fleurs de plastique du décor de Tokyo. L'empereur, la grandeur du Japon, me disait Takeichi, je m'en fous. Et pourtant, j'envie les kamikazés qui étaient soutenus par une foi. Quelle devrait être notre foi à nous ? Mishima apparaît en astre rouge dans le Japon des transistors, astre rouge mais ange d'une nostalgie impuissante. On évoque le désespoir extrême. Hijikata, le fondateur du Buto, met sa danse sous le signe de la saison violente. Les membres du danseur au crâne rasé se cassent aux articulations, comme des rotules de marionnettes animées par la flamme lente, terre et chair, liturgie vacillante des rouleaux de l'enfer, peau en emplâtre craquelée qui s'écaille, tombe par lambeaux. Tout mouvement trace la torture. Hijikata, écrit Min Tanaka, a entamé le mouvement qui n'arriverait jamais à destination pour contre-attaquer les vitesses contrôlées. Min Tanaka écrit « J'entreprends une opération secrète pour ne pas être mangé par la société. » Et les loques de peau jonchent une scène de sueur. Les syllabes coulent des lèvres par filets de bave et le regard vire au blanc. L'œil retourné force le passage interne, comme le masque blanc d'une eau percée de ses deux trous minuscules referme l'acteur sur une profondeur du dedans. Le poème haïku est une goutte de rosée, le froissement d'une feuille et plus rien. La maison japonaise s'ouvre tout entière sur un jardin miniature. Un simple caractère d'encre déchire l'espace. Dans le quartier Gion de Kyoto où je vis, je cherche encore la trace de ces geishas que j'avais connues il y a 15 ans. Il n'en reste que quelques-unes. Pour moi, un Japon a vécu. Les gratte-ciels de Shinjuku surplombent en bureau d'ordinateur le grouillement d'une vie chronométrée à des millions d'exemplaires. Et les geishas de Gionmachi avaient un culte particulier pour Inari, la divinité du riz représentée par le renard. Partout, aussi bien dans la campagne qu'en plein Tokyo, entre les fast-food et les pachinko, de ces petits sanctuaires aux renards, Inari. Mais c'est à Fushimi, Inari, près de Kyoto, que j'aimais grimper la montagne, parcourue de sentiers, faits de portiques rouges, accolés les uns aux autres et sur des kilomètres, entre les hauts pins et les bambous, conduisant d'un sanctuaire à l'autre parmi les renards mâles et les renards femelles, enfumés dansant. Parmi la foule des paysans qui allaient par groupes, s'arrêtant pour claquer des mains, à l'appel des esprits du renard, et pour déposer leurs offrandes de gâteaux de riz, de fleurs, de sel, et pour remplir d'eau des petits vases de terre destinés à apaiser la soif de la divinité. Fushimi Inari, un lieu sacré où tout arbre est langage. Un Japon du théâtre où le théâtre trame l'espace, où tout est masque, signe, Aujourd'hui, signe brûlé au temps canular du marketing, un tigre chevauché belle, New Hiroshima de l'oubli. Le sage du doigt montre la lune et l'imbécile suce le doigt. Hier sur la plage, les femmes dansaient à la lune, à Nagasawa. Terre et chair, une lune de masque aveugle danse aujourd'hui. Terre en dénature, chair dépossédée. Les démons du ventre sont tapis dans le futur. Les démons du ventre sont tapis dans le futur.